Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans Famille, justice, enfance numéro 140 avec Stéphane sur RLP. Aujourd'hui, nous aborderons la première partie d'un entretien en deux épisodes, donc avec Julien Broussous. Julien Broussous, éducateur spécialisé en libéral, psychanalyste et thérapeute familial, formé à la psychopathologie clinique, à la psychanalyse, à la systémie et à l'hypnose. Monsieur Broussous est intervenant auprès des institutions, protection judiciaire de la jeunesse, aide sociale à l'enfance, éducation nationale, services pénitentiaires, CMPP, CCAS, lieu de vie, etc., associations, entreprises et également des particuliers. Il est auteur de l'ouvrage « Prendre soin des familles » et il est co-auteur de « Intervenir en libéral au travail social, pourquoi, pour qui et comment ». Dans cette première partie, nous aborderons la présentation, qu'est-ce qu'être éducateur en libéral, l'accueil qu'il reçoit face à ce mode de fonctionnement, puis nous parlerons de son ouvrage et nous nous demanderons si le travailleur social d'aujourd'hui est le même que celui d'hier. Nous aborderons ensuite ses spécialisations en manière de travailler et nous parlerons d'adoption, du domaine de l'adoption, ainsi que celui de la modernité dans le champ de l'adoption. Puis nous finirons pour aujourd'hui par la médiation familiale. Mais tout d'abord, nous en parlons souvent et nous avons encore un appel de maître Michel Hamas aujourd'hui. La question qu'il pose est fondamentale. Qui va nous protéger ? Qui va nous protéger en fait de ceux qui protègent nos enfants ?
Bonjour, je m'appelle Michel Hamas, je suis avocat au barreau de Marseille. Certains d'entre vous me connaissent, je me bats depuis maintenant 4 ans pour les familles des parents, les parents d'enfants placés, point. Je dénonce un système injuste, un système violent, un système malveillant. Je dénonce également la violence des magistrats, qui est inacceptable parfois. Demain, j'ai une audience à Foix pour deux parents. Deux parents à qui on a pris les enfants il y a 3 ans, parce qu'en disant, on leur reprochait d'avoir un syndrome de Munchausen, c'est-à-dire de trop médicaliser leurs enfants. Point. Donc on leur a pris les enfants en disant « Vous les avez mis en fauteuil roulant, vous leur avez fait porter un corset, c'est vous qui avez fait le corset, c'est vous qui avez mis un fauteuil roulant. » J'ai fait faire le médecin de l'aide sociale à l'enfance, a dit « Ouh là là, ces enfants ils sont en trop bonne santé, les parents les ont surmédiqués. » Donc le médecin de l'assistance sociale, d'accord. Donc moi, pour sortir de là, j'ai fait un procès. J'ai fait un procès aux médecins qui ont soigné cet enfant devant la chambre disciplinaire des médecins en disant ces médecins-là, notamment le chef de service de Toulouse qui a suivi ces enfants, vous avez surmédicalisé les enfants, vous avez fait porter un corset à cet enfant, vous avez donné un traitement à ces enfants, vous avez mis un des enfants en fauteuil roulant, vous êtes responsable parce qu'à cause de ces traitements, on a placé les enfants. J'ai eu le résultat hier, aujourd'hui, ce matin, on a gagné sur tout. C'est-à-dire que j'ai pas gagné dans les termes, mais j'ai eu ce que je voulais entendre, c'est-à-dire que la chambre disciplinaire des médecins a dit que les soins qui ont été donnés par le chef de service de Toulouse étaient adéquats, que les enfants étaient atteints d'une maladie, qu'il était important de faire porter un corset, qu'il était important de mettre cet enfant dans un fauteuil roulant, que c'était les soins adaptés. D'accord? Que tout le traitement qui a été fait, c'est-à-dire que ces enfants sont placés depuis 3 ans, ils voient quasiment plus leurs parents, pour rien. L'audience vient demain. Pas de chance pour nous. Ce que je suis en train de vous dire, je devrais le dire demain à l'audience. Je peux pas le dire, pour une raison simple. Pas de train qui parte demain, je peux pas aller à Foix. Et non plus, pas de voiture, puisqu'il n'y a déjà plus d'essence à Marseille. Il n'y en a pas sur la ligne d'autoroute entre Marseille et Toulouse. Je fais donc un mail au magistrat en disant, écoutez, je peux pas venir demain. Décaler la décision d'un mois, vous prorogez, et quand il y aura plus ce que nous vivons à l'heure actuelle, on gérera tranquillement ce dossier. Je reçois là le mail du juge pour enfants de Foix qui dit non, on peut pas parce que j'ai trop de travail. T'as entendu qu'elle a une audience par an dans ce dossier. C'est Foix. Des dossiers en assistance éducative pour les enfants, le ressort de Foix. D'accord? Là, j'ai la décision qui a été rendue par l'ordre des médecins, qui dit que les médecins qui ont soigné ces enfants il y a 3 ans, ils les ont soignés avec des soins adéquats, des soins adaptés, qu'il fallait un corset, qu'il fallait le fauteuil roulant, que les décisions qui ont été prises par les médecins, c'était des bonnes décisions. Malgré ce, l'ASE a placé les enfants depuis 3 ans. Ces gens ne le voient plus. ne voit plus les enfants. L'enfant m'écrit par SMS, parce que je suis sur les réseaux, de manière régulière, en disant « sortez-moi de là, j'en peux plus ». Ces gens ne voient plus leurs enfants. Et moi, demain, on m'interdit d'aller plaider, alors que j'ai des choses à dire. Là, vous m'entendez que j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire, je n'ai pas le droit de les dire, et le magistrat me refuse le renvoi. Je suis obligé d'appeler le bâtonnier de Marseille, en disant « il faut à tout prix m'aider ». Parce que si on me refuse le renvoi, il y a une décision qui va être rendue, parce qu'on a vu le rapport, les rapports des services sociaux si bienveillants. Dit, il faut reconduire pendant un an avec Wallou de droit de visite pour ces gens-ci qui les voient plus. Maintenant, c'est tellement éloigné. Depuis 3 ans, on ne voit plus leur enfant. Tout ce qu'on a à dire demain, on ne va pas le dire. Je pourrais pas. Et quand je vais faire appel à la cour d'appel de Toulouse, je vais passer dans un an. C'est une honte. C'est ce qui se passe en France est une honte. Ce qui se passe à Foix est minable. Excusez-moi, dans ce dossier, il y a une plainte qui a été pénale. Parce que quand on fait mal, on fait très mal. Ils ont déposé une plainte pénale contre ces gens, disant « Vous avez maltraité vos enfants en les surmédicalisant. » Le juge d'instruction de Foix, en 3 ans, n'a jamais reçu mes clients. Il les a jamais vus. Il a jamais entendu les médecins. Il les a jamais vus. Il a jamais entendu les enfants, il les a jamais vus. Comme acte, pendant 3 ans, il a fait un truc. Il a désigné un expert psychiatrique pour entendre les gens, et j'ai jamais eu l'expertise. Nada, Wallou, Zobé, c'est ça que l'on vit dans cette matière. C'est ça que l'on vit dans cette matière. Ils vont les piétiner demain matin parce qu'on sera pas là. Et même si on était là, ils vont les piétiner quand même. Parce que ce système est minable, parce que ce système est injuste, parce que vous dites rien, parce qu'on se bat pas, parce qu'il n'y a personne pour se lever, j'ai honte. Voilà, je rentre de vacances maintenant. J'ai déjà perdu le bénéfice intégral de la semaine de repos que je viens de prendre. C'est inacceptable de confier la défense, le sort des enfants à ces gens. Qui va nous protéger d'eux ? Si on ne le dénonce pas.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
RLP 102.3, aujourd'hui avec Julien Broussou. Julien Broussou, éducateur spécialisé en libéral et auteur de l'ouvrage « Prendre soin des familles ». Monsieur Broussou, bonjour, vous allez bien ?
Bonjour, oui, je vais bien.
Bon, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, dire qui vous êtes, ce que vous faites, par où vous êtes passé ? Voilà, qui êtes-vous, monsieur Broussou ?
Alors, je suis Julien Broussou, donc c'est vrai que la question, je suis éducateur spécialisé en libéral. J'ai eu un parcours, je dirais, avant d'arriver sur du libéral, donc à la protection judiciaire de la jeunesse, dans un premier temps. Voilà, je travaille sur du préventif judiciaire, sur l'international au Sénégal aussi, avec les mineurs délinquants. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur pas mal de services du ministère de la Justice, foyer, insertion et milieu ouvert. Puis, dans d'autres expériences, j'ai pu aussi naviguer à la protection de l'enfance. Et rapidement, hein, après une petite décennie, je me suis rendu compte d'une certaine insatisfaction, voilà, du travailleur social que j'étais avant, en tout cas, dans le cadre des administrations. Et ça m'a donné l'idée de créer, une ouverture dans le travail social avec l'exercice du libéral. Donc, c'est à ce moment-là de ma vie où j'avais 30 ans, mais que j'ai proposé aussi en tant qu'intervenant différents outils de médiation éducative sur la gestion des émotions, sur la violence, que j'ai conçu au ministère de la Justice. J'ai pu proposer après à l'aide sociale à l'enfance, à la PJJ aussi. Je suis intervenu aussi à l'éducation nationale dans les collèges et les lycées, et également dans les services de détention pour en proposer des services complémentaires.
Qu'est-ce qu'être éducateur en libéral aujourd'hui en France ? Parce que ce n'est pas forcément très commun. Ça consiste en quoi ? Et qu'est-ce qui vous différencie des autres ?
Alors, être éducateur en libéral, c'est déjà être force de proposition d'une façon complémentaire aux institutions. Voilà. Proposer, je dirais, différents services sur l'accompagnement à la parentalité, sur des ateliers en individuel ou en collectif, pour soutenir, je dirais, les services médico-sociaux, puisque aujourd'hui, on sait que les places sont saturées dans les établissements. Et c'est vrai que moi, de mon expérience, j'ai pu avoir tout un travail sur la gestion des émotions, la violence. Donc, j'ai pu faire des propositions sur des visites à domicile, accompagner les patients, je dirais, sur l'extérieur aussi, voilà, ou en cabinet. Donc, il y a différentes modalités en fonction du choix qu'on fait.
D'accord. Ça veut dire que vous avez un bureau, que vous recevez les gens qui viennent vous voir. Ils sont mandatés par quelqu'un ou ce sont des gens qui viennent par leur propre initiative demander vos services?
Alors, la plupart du temps, je dirais que ce sont les parents qui me contactent directement. Voilà. Aujourd'hui, d'accord, j'ai des spécialités donc, sur l'adoption, sur les adolescents à comportement tyrannique, sur l'handicap. Donc, c'est vrai que j'ai un site internet qui m'autorise à être ouvert au niveau national. Oui. Donc, aujourd'hui, j'accompagne, je dirais, les trois quarts de mon temps, c'est en visio.
Voilà, éducateur-libéral.fr, on va le citer.
Voilà, et c'est vrai que je dirais qu'il y a les travailleurs sociaux des administrations qui me sollicitent, ou des hôpitaux également, sur des projets comme les ITEP également, pour accompagner, je dirais, des adolescents à particularité.
D'accord. Et donc, en fait, en libéral, ça veut dire secteur privé, ça veut dire que les gens vous payent sur leur budget propre. Et quand l'institution ou l'hôpital vous sollicite, c'est sur des appels d'offres, sur un... Expliquez-nous un petit peu.
Exactement, c'est ça. Moi, je fais devis et factures. Et ensuite, lorsque je travaille avec les administrations, c'est pareil, devis et factures auprès de l'administration.
D'accord, ok, très bien. Bon, c'est une grande différence par rapport aux travailleurs sociaux qu'on a l'habitude de rencontrer. Quel est l'accueil des institutions et des gens par rapport à ce mode de fonctionnement?
Alors, je dirais que tout dépend des territoires. Au début, quand j'ai développé cette activité, j'ai commencé dans le Gard. Puis dans le Gard, à cette période-là, il n'y avait pas grand monde, je dirais. Voilà, je me suis senti seul dans cette ouverture-là. Ensuite, j'ai évolué sur le côté de Toulouse, donc sur un territoire beaucoup plus grand, voilà, avec des dispositifs aussi différents et des fois aussi identiques, mais il y avait une dynamique qui était différente. Et ensuite, je suis allé aussi sur Montpellier pour revenir aujourd'hui dans le Gard. Donc, j'ai créé du mouvement. Pourquoi le mouvement? Parce que je me rends compte en fonction des territoires que la manière de penser l'acte éducatif ou du soutien auprès des familles est différente. Parce que les budgets sont différents, les actions sont différentes et les postes sont différents. Donc, c'est vrai que moi, sur Toulouse, je me suis autorisé à créer du lien avec les administrations, les CMS, ensuite avec les libéraux, hein, les psychiatres, les pédopsies aussi, les hôpitaux, qui m'ont permis en tout cas de faire du lien dans différents projets. Je travaille aussi sur la coordination de l'hôpital des enfants de Toulouse sur un dispositif sur l'obésité. J'ai pu intervenir aussi avec la psychiatrie, avec l'hôpital Gérard Marchand sur Toulouse. Ce sont des projets qui sont spécifiques avec des partenaires spécifiques.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Donc, Julien Broussous, sur RLP 102.3, cet ouvrage en fait, pourquoi cet ouvrage? D'où vient cet ouvrage? En quoi était-il nécessaire? Et qu'avez-vous mis de vous dedans?
Alors, cet ouvrage, j'y ai mis mon parcours un peu personnel et professionnel au sein des administrations, jusqu'à l'exercice en libéral. Et pourquoi cet ouvrage? Parce que avant le Covid, j'étais beaucoup sollicité par de nombreux travailleurs sociaux sur la France, des étudiants en sciences de l'éducation, en psychologie également, et les étudiants en travail social, pour savoir comment j'avais réussi à pratiquer ce métier, et si on pouvait en vivre, et comment les choses se faisaient. Alors au début, je faisais des entretiens, je prenais le temps auprès de ces personnes-là, ou sinon par téléphone, et après... La période de Covid arrivant, je ne pouvais plus répondre à ces demandes. Donc, c'est là où il m'est venu l'idée, en fait, de passer à une phase d'écriture concernant mon expérience. Et cet ouvrage, je l'ai fait aussi pour soutenir la cause des familles. La cause des familles qui souffrent, qui ne sont pas vues ou entendues. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de témoignages de parents, pères, mères et patients, adolescents, qui se sont déposés avec différentes troubles et pathologies, hein, avec de l'autisme, du haut potentiel intellectuel, des enfants en comportement tyrannique également, sur l'adoption, les jeunes majeurs. Donc tous les publics que je traite et que j'accompagne, en tout cas, hein, dans une prise en soin, ont pu se déposer. Je travaille aussi avec des partenaires médico-sociaux. Donc c'est vrai que dans le cadre de cet ouvrage, il y a eu des partenaires comme l'Éducation nationale, les hôpitaux, qu'on puisse déposer dessus. Et je remercie aussi chaleureusement l'ancien directeur départemental de la PJJ du Gard, Jean-Jacques Dupuis, qui a pu soutenir cet ouvrage avec l'exercice, je dirais, de ce nouveau métier. Et aussi Jocelyne Calvé-Lefebvre, chef de pôle de la psychiatrie infanto-juvénile de l'hôpital Marchand à Toulouse. Voilà, qui pense aussi que l'exercice en libéral peut être soutenant pour des familles qui sont isolées et en détresse lorsque les places sont saturées dans les administrations. J'ai pris du plaisir déjà, plaisir à écrire, à offrir mon expérience. Travailler avec une biographe et aussi une étudiante, je dirais, autour, je dirais, des illustrations pour le rendre plus ludique et accessible.
D'accord.
Et je l'ai amené aussi sur dans les premiers chapitres sur un versant, je dirais, plus institutionnel et aussi avec une méthode de prise en soin de la violence que j'ai conçue au ministère de la Justice, la méthode violence, insécurité, émotion. J'y ai mis aussi toute une approche sur les adolescents comportement tyrannique, toute une spécialité aussi sur l'adoption, en tout cas mieux cerner cette problématique-là spécifique. Et ensuite... à la fin de cet ouvrage, j'y mets aussi toute une philosophie du nouveau travers social.
C'est intéressant, ça. Le travers social d'aujourd'hui est-il le même que celui d'hier?
Je pense qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de créer. Voilà. L'opportunité de s'ouvrir à de nouvelles modalités, parce que les familles ont évolué, les pathologies ont évolué, et les accompagnements doivent évoluer également. Alors, il est important que les administrations restent administrations parce qu'il y a un point d'ancrage aussi nécessaire pour de nombreuses familles. Mais lorsque les places sont saturées dans les administrations, il me semble que l'exercice du libéral est une nécessité aujourd'hui en France. Et qu'on ne pourra pas se passer des travailleurs sociaux puisque les difficultés ne datent pas d'aujourd'hui.
Non, bien sûr.
Et que le travers social a pour fonction de faire du liant et du lien entre la souffrance psychique de l'enfant, de l'adolescent et aussi la famille.
Oui, et puis c'est aussi le signe d'une société évoluée et moderne que d'aller s'occuper de la souffrance et des enfants et de nos contemporains de manière générale. Donc oui, effectivement, le travailleur social se justifie, bien sûr.
Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet ouvrage, Prendre soin des familles, je l'ai amené sur le versant éducatif et thérapeutique du travers social. Voilà, l'exercice en libéral, l'expérience de l'administration. Dans les administrations, on est cloisonné, hein, à une fiche de poste, à des missions, et on doit représenter l'administration et dans un cadre déterminé, et ce qui est normal, hein, dans une norme institutionnelle. Par contre, ce qui est intéressant dans le cadre du libéral, c'est qu'on peut vivre l'autorisation en fonction de ses sensibilités, de ses créations intellectuelles.
Vous avez plus de liberté.
Plus de liberté, beaucoup plus de liberté. Par contre, ça demande aussi une conscience, une rigueur, parce qu'on est hors cadre. On propose son propre cadre. Donc moi, je travaille avec les équipes. Aujourd'hui, ce sont les partenaires, voilà, dans chaque situation. Donc j'ai plusieurs équipes, on dira. Et ensuite, j'amène de la nouveauté dans chaque situation.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Vous, dans quel domaine vous intervenez le plus? Est-ce que vous avez des spécialisations, des spécialités?
Oui, comme je l'ai évoqué précédemment, sur l'adoption, sur les adolescents à comportement tyrannique et sur les troubles neurodéveloppementaux.
Qu'est-ce que vous proposez dans ces cas-là? Comment est-ce que vous travaillez?
Alors, surtout, si on part sur l'adoption, dans un premier temps, alors je ne m'occupe pas de faire du lien avec les parents et les administrations au départ d'adoption. On m'appelle souvent quand il y a des crises. Et les crises apparaissent souvent à la période de préadolescence, adolescence. Et c'est vrai que j'accompagne ces familles-là sur la France, hein, parce que j'ai né de Toulouse, de Montpellier, de Paris et de l'Isère, un peu partout, qui me contactent pour les soutenir en termes de réflexion, de positionnement éducatif.
D'accord, et dans des cas d'enfants qui ont déjà été adoptés, en fait, et lorsqu'il y a des crises passagères, vous allez essayer d'améliorer les choses sur place.
C'est ça, exactement.
D'accord.
Alors sur place, mon intervention se fait beaucoup en visio aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai que les familles qui me suivent et que j'accompagne trouvent aussi du lien et du soutien, parce que c'est vrai que c'est une particularité, l'adoption, qui est aussi méconnue, je dirais, mis à part le côté administratif, hein, mais le suivi de l'adoption est quelque chose de complexe et qui n'est pas encore bien développé en France, à mon avis.
Alors si je peux me permettre, parce que j'ai lu votre site internet, je crois que vous-même, vous avez été concerné par cet environnement.
Exactement. Alors c'est vrai que je suis issu de l'adoption. Moi, je suis arrivé en France à 4 ans avec mon frère et ma sœur. Et c'est vrai que j'ai grandi dans le Gard, j'ai évolué en tant que social. J'ai connu aussi le travail qui se fait et qui ne se fait pas sur l'adoption, ce qui m'a autorisé aussi en matière de réflexion et de proposition, de faire des propositions complémentaires aux familles.
D'accord. L'adoption en France, on entend... Très souvent, j'ai des retours qui me viennent parfois de longueur de process, de difficultés, et après, effectivement, un petit peu de solitude. Ça résonne quand je vous dis ça?
Alors oui, c'est vrai qu'il y a une longueur, hein, dans l'administration française. Voilà. Peut-être qu'avant, à mon époque, hein, quand j'étais adopté, c'était plus facile, plus rapide. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis en lien aussi avec des associations sur l'adoption et j'entends beaucoup cette lenteur, hein, de l'administration pour vérification et les choses se font différemment. Alors c'est vrai que moi, dans le cadre de mon travail, j'interviens plutôt sur l'après, le post-adoption, que sur cette démarche au début.
D'accord. Vous avez une vision sur combien de situations d'adoption en France?
Avec le temps, je dirais plus de 50.
D'accord. Est-ce que vous avez été confronté à la modernité, à la PMA, à la GPA, aux couples homosexuels, ce genre de choses?
Aussi, hein, j'accompagne actuellement aussi des couples homosexuels.
Donc ça existe et il y en a?
Il y en a, oui.
D'accord.
Et c'est vrai que j'accompagne le même système, je dirais, que sur la parentalité homme-femme, sur l'adoption. Et j'accompagne la parentalité dans son ensemble.
D'accord, très bien. Ça se passe comment dans ces cas-là? Est-ce que vous avez noté une différence ou est-ce que les cas d'adoption de ces couples de la modernité sont en fait dans les mêmes caractéristiques, les mêmes façons de réagir que les autres?
Je dirais que ce soit sur la modernité au niveau de la parentalité ou sur des schémas plus anciens, on est confronté de toute façon au fantasme de l'enfant, de l'idéalisation et aussi, des erreurs hein, qu'on fait tous hein, dans le cas de la parentalité. Donc c'est vrai que mon travail auprès de ces familles, peu importe la distinction, c'est de les accueillir telles qu'elles sont avec leur histoire, leurs ressources, de soutenir les pères hein, qui souhaitent adopter, de soutenir aussi les pères, dans l'hétérosexualité, hein, qui sont dans des couples traditionnels, et aussi les mères pour les amener en fait à progresser sur ceux qui n'ont pas pu voir et comprendre leur histoire, et ainsi dans la relation parent-enfant.
D'accord. Alors, c'est un thème que j'aborde généralement en fin d'émission, mais vu qu'on est allé dessus, vous êtes un spécialiste et autres, et que j'en parle régulièrement. Moi, j'ai eu des retours me disant que les couples homosexuels et autres, pour être parents, devaient avoir des processus d'adoption pour avoir les droits parentaux, que c'était plus long, plus difficile, qu'ils se sentaient discriminés, et que dans les cas de séparation conflictuelle, notamment et autres, ils avaient encore plus de problèmes que les familles traditionnelles pour accéder à leurs enfants après les séparations. Alors, je ne sais pas si vraiment on rentre dans votre champ d'expertise, mais est-ce que ce que j'ai entendu correspond à ce que vous voyez, ce que vous pensez?
Alors, c'est vrai que j'ai pas évoqué cette réalité-là avec les familles dans le cas de la modernité au niveau de la parentalité, mais je sais que là, il y a une complexité sur le volet administratif en tout cas.
Oui, beaucoup. Ouais.
Des preuves, hein, comme on dit, hein, cadre, je dirais matériel, financier et aussi affectif. Hein. Donc tout est un peu plus évalué peut-être.
D'accord. Ils sont plus évalués que les autres, vous trouvez?
Je dis peut-être.
D'accord. D'accord. Ouais. Mais c'est difficile d'avoir des retours parce qu'effectivement, il y en a assez peu.
Alors, moi, je sais que les parents que j'accompagne hein, sur cette réalité-là ne m'ont pas parlé. Alors, il y avait le temps de l'adoption, ils ont attendu, ils sont confrontés à l'administration, mais ils ne m'ont pas évoqué de plus grandes difficultés. Voilà.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Donc Julien Broussous, vous intervenez également dans la médiation familiale. Beaucoup de gens ici nous disent que la médiation est un outil pour éviter justement le pourrissement des séparations familiales, que c'est quelque chose de bénéfique et de sous-utilisé. Mais ça, c'est leur avis à eux. Votre avis à vous, qu'est-ce que c'est?
Alors déjà, le cas de la médiation, c'est un cadre spécifique, hein, d'accompagnement entre des parents et pour leur enfant, je dirais. Voilà.
D'accord.
Alors, ça signifie aussi que dans ce cadre-là, dans mon travail, comme je le mène, c'est aussi de faire du lien avec les parents qui sont séparés. Je travaille avec les parents qui sont séparés, alors que ce soit en visio ou en cabinet. L'objectif, c'est que l'enfant, et souvent j'ai des adolescents, des jeunes majeurs, mais c'est de remettre de la clarté sur la parentalité, dans le cadre de l'autorité, dans le cadre des fonctions symboliques, de la fonction maternante et paternante aussi. Voilà, en fonction du projet de l'enfant, parce que l'enfant est central. Et ensuite, c'est de remettre aussi de la clarté dans la communication, dans de l'apaisement hein, aussi, et accueillir aussi l'histoire, comme j'ai dit précédemment, sur soit les difficultés que l'enfant a traversées, que le parent a traversées. Il y a pu avoir aussi des fois des burn-out, hein, burn-out parentaux, qui font que c'est une réalité qu'il est important aussi d'accueillir et d'accompagner.
Vous êtes dans une position, vous, de conciliation, ou vous pensez qu'il faut faire plus appel au service, moins appel au service? Comment vous vous placez lorsque vous arrivez dans un endroit?
Alors, c'est sûr que lorsqu'on fait appel à moi, je suis éducateur spécialisé en libéral, aujourd'hui psychanalyste et thérapeute.
Ah, ça va préciser, vous avez plusieurs étiquettes, vous êtes éduxpé, psychanalyste et...
Thérapeute familial.
Thérapeute familial, tout à fait.
Donc ça autorise aussi à sortir des cadres additionnels pour que les parents qui me sollicitent puissent aussi entendre aussi le cadre légal, hein, voilà, de l'autorité parentale, le cadre aussi systémique dans une dimension de la famille et des interactions familiales, et le cadre aussi de la psychopathologie clinique en fonction des pathologies qu'il peut y avoir dans les systèmes.
Mais la médiation au 21e siècle, en fait, les gens viennent vous voir par eux-mêmes. Et quels sont les grands thèmes qui reviennent le plus?
Alors souvent, c'est les parents qui me sollicitent, mais veulent aussi progresser dans la relation parent-enfant. La première réalité, elle est là. et aussi avoir aussi un tiers qui puisse aussi éclairer des fois quand il y a des problèmes de communication, d'entente et de résolution dans les problèmes en termes de conflits.
D'accord. Une société de recomposition avec beaucoup de conflits familiaux et autres. Est-ce que vous avez des solutions pour essayer d'améliorer cet environnement et faire que les séparations, la recomposition occidentale, en fait, moderne, se passe mieux ?
Alors, souvent, dans le cadre de mon travail, je fais des séances une fois, par semaine. Comme ça, il y a une régularité, autant pour l'adolescent, l'enfant, pour le jeune majeur, et aussi sur la parentalité. Et en fonction, je peux faire des interventions soit individuelles avec l'enfant, soit en binôme avec un parent et l'enfant, ou sinon en trinôme avec les deux parents et l'enfant. Donc tout dépend de la conjoncture et du contexte actuel qu'il traverse. Hein. Et en fonction de mes observations, de mon analyse, je peux faire un travail systémique avec l'ensemble de la famille.
D'accord.
Donc... Et même les grands-parents. Tout à fait.
Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance.
Jamais pardon. Quelle belle arrivée. J'ai trouvé le temps long. Et te voilà en face de moi. Ça fait des mois que j'attends ça. Voir ce regard indispensable qui me connaît, qui m'aime quand même, mon amour. Bienvenue. Là. Va porter mon nom. Je caresse un rêve et j'y crois pour de bon. Il nous en reste et c'est tant mieux. Du temps, des gestes et des adieux. Regard indéchiffrable qui me connaît, me veut du bien, mon amour.
RLP.
Radio libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.